Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission La Note Originale, une émission où l'on explore les musiques de films. Sans plus attendre, je vous présente mes chroniqueurs. Ils sont là, ils sont chauds pour cette nouvelle émission. Anaïs, Paul et Henri, comment ça va tout le monde?
Ça va et toi?
Ça va, bonjour. Merci.
Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission.
Ah oui, heureux, oui.
Ça va être ça.
Il n'est pas obligé de faire semblant.
Arrête de faire ça.
Tu transpires la joie, dis donc.
Oui, super.
Alors, on te retrouve tout à l'heure, Henri, pour l'analyse de la bande originale, Paul pour les anecdotes juste avant, et dans quelques instants, Anaïs pour le synopsis du film, ainsi que la biographie du compositeur.
Oui.
Alors, ce film, de quoi il s'agit? D'ailleurs, je vous fais une petite devinette. Si je vous dis chapeau, veste, cuir, fouet, archéologue...
Précise archéologue, ouais.
Précise archéologue, parce que ça aurait pu être autre chose. Forcément, si jamais j'avais envie de faire le relou, je te dirais... Oh, Benjamin Gates, oh, Alan Quatermain. Mais bon, évidemment, c'est pas de eux dont on va parler, forcément.
Et oui, on va parler des aventuriers de l'Arche perdue, titre français. Bien sûr, réalisé par Steven Spielberg, et dont la bande originale a été composée par...
Par
John Williams.
Ah bah oui alors.
Mais oui, troisième émission consacrée cette saison au compositeur John Williams. Souvenez-vous, chers auditeurs, on avait déjà parlé de lui pour E.T. l'extraterrestre, une de nos premières émissions d'ailleurs, et Hook qui est venu juste après.
Oui.
Des émissions que vous pouvez retrouver bien sûr sur Mixcloud, Spotify et iTunes. Alors, je ne sais pas si les auditeurs sont au courant, mais en ce moment, c'est la fête de la radio française. Et oui, cela veut dire qu'il y a 100 ans que la radio en France existe. Et pour l'occasion, nous avons apporté notre propre machine à remonter dans le temps. Et oui, parce qu'il faut remonter en 1921 pour se mettre en condition. Donc, je mets tout de suite en marche la machine. Et on se retrouve en 1921, date à laquelle cette première radio vient d'être créée. Et oui, elle se nomme Radio Tour Eiffel, et émet pour la première fois depuis... Eh bien ma foi, la Tour Eiffel, où je me trouve actuellement. Quelques auditeurs équipés ont eu la chance aujourd'hui d'entendre la voix de notre premier animateur radio, sapeur-télégraphiste de profession, qui s'exprimait avec les mots que je m'apprête à vous énoncer. Allô, allô, ici poste militaire de la Tour Eiffel. Vous noterez toute l'originalité de cette phrase qui a bien évidemment été oubliée de tous. Bon, eh bien ici, au sommet de la Tour Eiffel, la vue est belle, mais on se les gèle. Alors je redémarre la machine à remonter dans le temps et nous revenons en 2021. Et voilà, je vois que ça rigole en coulisses là, ça rigole derrière.
Pas du tout.
Jamais, on reste sérieux et stoïque.
Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler.
Bah, c'est quand même mieux qu'à l'époque. En tout cas, c'est vrai que c'est plus. Aujourd'hui, ça marche un peu mieux à la radio. On a la possibilité de le faire en visio. Je pense qu'à l'époque, ils auraient halluciné de faire de la radio de cette manière. En tout cas, ça fait 100 ans que la radio française existe. Et on célébrait également d'ailleurs les 40 ans de la radio libre en 1981. Les radios locales, privées et associatives pouvaient enfin être régularisées et émettre. D'ailleurs, notre radio, RPL Radio, n'a pas trop attendu pour se créer puisqu'elle est née en 1982. Donc, l'année prochaine, il y aura un anniversaire. Eh oui. Alors, tout ça pour dire quoi? Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, parce qu'Indiana Jones est sorti en 1981. Eh bien oui, c'était prévu. Vous avez vu le rapprochement?
C'est malin, quand même.
Et c'est pour ça qu'on va parler, effectivement, d'Indiana Jones. Alors, avant que Anaïs nous fasse découvrir le synopsis du film, on va s'écouter un premier extrait de cette bande originale. Et c'est sans surprise, je pense que vous avez peut-être déjà les notes en tête. C'est sans surprise, c'est que je vous mette
c'est le thème de Ben Hill, c'est ça?
Voilà, le thème de Ben Hill. Non, bien sûr, le thème principal de ce célèbre succès énorme signé John Williams. On s'écoute sans surprise ce thème principal de la bande originale du film Les Aventuriers de l'Arche Perdue. We'll be right back. le thème principal du film Les Aventuriers de l'Arche Perdue, qui met bien sûr en scène le célèbre Indiana Jones, une BO signée John Williams. On est toujours sur RPL Radio dans l'émission La Note Originale, et c'est le moment de passer au synopsis d'Anaïs. Eh bah oui, on enchaîne, hein. On va très vite, c'est une équipe de choc. Allez Anaïs, je te laisse la parole.
Le professeur Henry Walton Jones est un éminent archéologue, connu pour son goût de l'aventure mais aussi du risque. Celui qu'on surnomme Indiana Jones est contacté par les services secrets américains, car ces derniers ont en effet intercepté un message indiquant qu'Adolf Hitler et les nazis pourraient bien avoir retrouvé la trace de l'Arche d'Alliance, ce coffret sacré contenant les tables de la loi, sur le site de Tanis, en Égypte. Cette relique divine offrirait un pouvoir insoupçonné à son détenteur, un pouvoir à ne pas mettre entre toutes les mains. Indiana Jones prend alors le premier avion pour tenter de trouver l'Arche avant les nazis.
Tan 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 tan. Voilà, c'est là que ça commence, hein, forcément.
Je vais me permettre, moi, un truc, parce que j'imagine que tu vas nous demander quel est notre avis sur le film.
Quel est votre avis sur le film ?
Merci de me demander, justement, je voulais dire un truc. Moi, Indiana Jones, merci, il y a un truc que je trouve assez extraordinaire avec ce film-là. On en parlait en off avec Paul. Ça fait partie de ces quelques films où j'ai beau l'avoir vu et vu et re-revu et re-re-re-re-re-revu et encore, j'ai vraiment une impression de redécouverte à chaque vision du film, en fait. Il y a une espèce de réémerveillement constant, en fait, par rapport à ce film-là. Ça me fait toujours le même effet. À chaque fois que je le revois, j'ai l'impression d'avoir exactement ce même effet que quand je l'avais vu pour la première fois, et notamment pour la partie, justement, très mystique et très surnaturelle, à laquelle tu t'attends pas nécessairement, mais qui marche justement très très bien avec ce genre de récit. C'est la légère partie surnaturelle totalement fantastique et imaginaire.
Et la scène où il y a le soleil qui va directement sur l'endroit où il y a
le bâton de rat. Voilà.
Et c'est top parce que tout est justement, même dans le système égyptien, tout est millimétré aussi.
Y a un truc qui se répond.
Tu vois, tout est associé.
Y a tout ce truc. On parlait de ceux qui se souviennent de notre émission sur Stargate, on parlait un petit peu de théorie alien, tout ça. On n'est pas très loin et c'est marrant, comme tu dis, pour te rejoindre, en fait, dans Indiana Jones, non seulement c'est pas quelque chose qui te marque, mais en plus de ça, même si c'est le cas, ça te dérange pas plus que ça. Ce qui a fait un peu polémique, notamment dans le quatrième film.
Oui, si ce n'est que là, ce qui est intéressant, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose qui te tape de façon beaucoup plus viscérale, parce que dans le quatrième et dans Stargate, c'est le côté extraterrestre. Ouais. Donc là, on tape dans la SF. Alors que là, on tape dans le domaine du biblique, de la religion, du surnaturel.
C'est plus accepté déjà.
Ouais, totalement. Mais John Williams est aussi un des acteurs forts d'Indiana Jones, parce qu'il a réussi à créer encore une fois, et je dis bien encore une fois parce qu'avant ça, il y avait Les Dents de la Mer, il y avait Star Wars, il a réussi encore une fois à faire un thème complètement iconique.
Bien sûr.
Alors pour parler de John Williams, du coup, Anaïs, je te laisse la parole pour sa biographie, effectivement, sur John Williams. Bon, qui sera un peu plus original, puisqu'on a déjà parlé, on en a déjà fait deux de biographies de John Williams, c'est toujours la même, hein, bizarrement.
Il n'a pas
et,
changé de.
Du coup, on l'a un peu remodifié pour rappeler aux auditeurs, ceux qui n'ont pas vu les autres émissions, et aussi ceux qui les ont connus, apprendre de nouvelles choses sur le célèbre John Williams.
Pour ce qui est de John Williams, aujourd'hui, c'est le dernier vétéran incontesté de la musique de film américaine, probablement aussi un des plus grands compositeurs du XXe siècle, dans le sens où beaucoup de ses œuvres sont aussi connues que les films auxquels il a participé. Film mythique, musique mythique, il a contribué à faire de la musique de film un genre à part entière. John Williams demeure le compositeur de musique de film américain le plus respecté et le plus connu dans le monde. À son palmarès, plusieurs immenses sagas devenues de véritables icônes de la culture, comme Les Dents de la Mer, Star Wars, Superman, E.T. l'extraterrestre, Jurassic Park, Hook, Maman j'ai raté l'avion, La liste de Schindler, Harry Potter, Il faut sauver le soldat Ryan, et Arrête-moi si tu peux, et plein d'autres. À l'âge de 16 ans, il déménage à Los Angeles avec sa famille. Après son service dans l'armée de l'air, le jeune Johnny Williams revient à New York pour intégrer la prestigieuse Juilliard School, où il étudie le piano avec Rosina Levin. C'est à cette époque qu'il gagne sa vie en tant que pianiste de jazz dans les clubs new-yorkais et en jouant pour des enregistrements. Il revient alors à Los Angeles pour entamer sa carrière dans l'industrie du cinéma. Il parvient à intégrer la principale agence hollywoodienne de l'époque et devient assistant de compositeurs tels que Bernard Herrmann, Alfred Newman et Franz Waxman. Il compose sa première œuvre pour le cinéma en 1958, pour Daddy O. C'est en ce début des années 70 qu'il entame une série de plusieurs films catastrophes tels que L'aventure du Poséidon, Tremblement de terre, La tour infernale, pour en arriver à l'inévitable, Les dents de la mer, pour le second film de Steven Spielberg. Il s'agit là de son premier succès international. La simple répétition de deux notes fait sensation et participe pour beaucoup du succès du film. Les années s'enchaînent et se ressemblent pour John Williams. Sans détailler son immense carrière, il parvient à composer un ou plusieurs chefs-d'œuvre par décennie depuis les années 70. Avec un minimalisme cru, John Williams réinvente la musique de film. Sa fonction n'est plus seulement illustratrice, elle évoque musicalement des sensations et des émotions que l'image ne font que suggérer, et ce avec une efficacité redoutable. John Williams est incontestablement le plus réputé des compositeurs de musique de film encore vivant qui possède probablement la carrière la plus impressionnante et prolifique, cumulant 110 bandes originales composées depuis 1958. Mais c'est surtout un musicien de génie qui a su sans cesse se renouveler et approfondir son style orchestral et créer des partitions mémorables avec parfois peu de choses.
Voilà. Et oui, merci Anaïs. Effectivement, John Williams, comment... On ne sait plus comment le décrire à force, hein, John Williams, tellement c'est quelque chose qui a participé à nous bercer à travers les films ou la musique tout court. C'est vrai que comment on pourrait le décrire ? C'est quoi pour vous, John Williams ?
Non, mais c'est... déjà, il est extrêmement lié à Spielberg. Je pense que l'un et l'autre ne seraient pas qui ils sont sans l'un et l'autre, justement. Je pense qu'ils sont très liés les deux et oui. Que le style correspond très bien et la musique correspond bien à l'image et l'image correspond bien à la musique.
En fait, effectivement, comme tu l'as dit, hein, Williams, ce qui est surtout incroyable avec lui, c'est que c'est un gars qui a remis en avant le modernisme, pour le symphonisme, pour le re-rendre important en fait et inévitable au sein de la production. Qui a permis de refaire découvrir également des compositeurs contemporains ou classiques. Mais bref, tout ça pour dire que Williams, il est devenu un monument, mais il faut vraiment se rendre compte de la façon dont on le dit, c'est un monument. Il fait partie de l'histoire du cinéma à proprement parler, en fait, pas uniquement de l'histoire de la musique de film, il fait partie de l'histoire du cinéma. Et quand il partira, ça sera vraiment, c'est même pas une page qui se tournera, c'est un livre qui se fermera complètement avec lui, parce qu'il est même l'un des derniers représentants de cette période faste, tu vois, de l'histoire du cinéma. Tu vois, des années 80, du premier âge d'or de la musique 50 à 70, c'est...
Ouais, carrément. Merci beaucoup Anaïs pour ce synopsis et cette biographie du compositeur. Comme toujours. Et puis, le deuxième extrait que je vous ai choisi, il s'agit de The Map Room. C'est le titre de l'extrait qu'on retrouve dans le film quand Indiana Jones découvre la chambre secrète qui lui révèle un emplacement secret. C'est le moment où tu parlais tout à l'heure, Anaïs, c'est-à-dire avec l'halo comme ça qui montre toute la complexité, la technologie égyptienne de l'époque. En tout cas, c'est tout ce côté que le film a un petit peu véhiculé, c'est-à-dire les pièges dans les pyramides, dans les temples, etc., etc. Alors, à la fois mystérieux et spectaculaire, on écoute sans plus attendre The Map Room de la BO du film Les Aventuriers de l'Arche Perdue. un second extrait donc, de la BO du film Les Aventuriers de l'Arche Perdue, composé par John Williams. On est toujours sur RPL Radio dans l'émission La Note Originale. Vous venez d'entendre le titre The Map Room. Et c'est le moment des anecdotes de Paul. Paul, je te passe la parole pour découvrir ces anecdotes d'Indiana Jones. Et tu me disais tout à l'heure qu'apparemment, il y en a beaucoup.
Oh là là, aujourd'hui, j'en ai pléthore, autant qu'il y a de trésors.
Ouais, bah dépêche, sinon tu vas prendre sur mon temps à moi, alors.
Tous les deux, à chaque fois, chamailler dans l'émission. Voilà, c'est chien et chat.
Qui aime bien, châtie bien.
Voilà. D'accord. Oui. Allez, je t'en prie, vas-y.
Alors, aujourd'hui, effectivement, pas mal d'anecdotes. On va se faire une petite mise en bouche avec une anecdote bien connue, hein, qui est, alors je suis désolé pour les 3 ou 4 personnes qui n'ont pas vu le film, qui écoutent l'émission, c'est pas un élément très important, mais à un moment, Indiana Jones est censé se battre contre un homme armé d'un sabre, et il s'avère qu'en réalité, il lui tire simplement dessus, il règle le problème en 5 secondes, c'est réglé. Et en fait, c'est parce que ce jour-là, le jour où Harrison Ford devait tourner cette scène, il était malade, en fait. Il avait la tourista, hein. Puisqu'il faut savoir que toute l'équipe de tournage a eu la tourista tout le temps où ils étaient en Tunisie. C'était absolument
l'enfer.
L'eau
n'est pas potable.
Et donc, Harrison Ford était malade ce jour-là. Et c'est pour ça qu'il tire directement sur le méchant, quoi, grosso modo. Ouais. Et l'équipe, en fait, l'équipe de tournage a tellement rigolé qu'ils ont gardé la scène. Ensuite, autre petite anecdote, savez-vous où ont été tournées les scènes souterraines avec les sous-marins, toutes les scènes où on les voit dans les cavernes souterraines ? Oui, bon, toi, je me doute en même temps, puisque tu ne sais pas. Mais pour les autres, je suppose que non, du coup. C'est à La Rochelle, c'était tourné à La Rochelle. Il faut savoir que les toutes premières scènes d'un Indiana Jones ever ont été tournées à La Rochelle.
Super,
ouais. Corico, vive la France. Savez-vous que Spielberg a placé quelques petits clins d'œil à son cher ami George Lucas, qui était producteur de ce film, un peu partout, puisqu'on voit par exemple plusieurs petits hiéroglyphes de R2-D2, de C3PO, l'immatriculation de l'avion au début c'est OBCPO, Obi-Wan pour Obi-Wan et pour C3PO. Enfin, il y a pas mal de petites références comme ça. Voilà, une dernière petite anecdote comme ça.
Voilà, une petite dernière.
Allez, pas piquer des hannetons comme ça. Là.
Allez, on va
la manche. Je vous balance comme ça qu'à la base, c'était Tom Selleck qui avait été pressenti pour le rôle. Seulement, il était beaucoup trop engagé dans la série
ils lui ont pas laissé
où
le
il
droit.
Porte cette superbe moustache, hein, nommée Magnum, que tout le monde connaît, j'espère.
Ouais.
Il était trop engagé dans Magnum et du coup, il a refusé le rôle. Cependant, il y aura quand même un épisode de Magnum.
Exactement.
Qui ferait une référence aux aventuriers de l'Arche Perdue, qui s'appelle d'ailleurs Les Aventuriers, trois petits points. Et il y a même une scène où Tom Selleck a un chapeau et un fouet. Enfin, tout, quoi. Il a le cosplay.
Indiana, c'était le nom du chien de George Lucas.
Exactement.
Voilà. Il y a beaucoup d'anecdotes et on n'a pas fini. On n'a pas fini. Mais merci beaucoup, Paul, pour ces anecdotes. Super.
Avec grand plaisir. C'est un film qui m'a marqué plus petit. Donc, j'étais content de travailler dessus.
Ah ouais, bah oui. Et bien, on passe à la musique. On passe à l'analyse d'Henri. Pour en découvrir toutes les subtilités de John Williams. Concernant cette sublime musique.
Passé du statut de très bon faiseur à excellent compositeur, à véritable génie musical, le compositeur venait d'enchaîner en quelques années à peine avec des titres comme La Bataille de Midway, Les Dents de la Mer, Superman, Dents de la Mer 1 et 2, pardon, Rencontre du Troisième Type, Fury, Dracula, les deux premiers Star Wars, et encore, il n'en était qu'à l'échauffement. Le temps d'enfiler la veste en cuir, la sacoche en bandoulière, le chapeau, le fouet d'une main et la baguette de chef d'orchestre de l'autre. Nouvelle retrouvaille avec sa désormais âme sœur cinématographique, Steven, et non pas Stigal, mais Spielberg, pour le premier opus d'une des plus grandes sagas d'aventures modernes en devenir. Véritable ode amoureuse au pulp, au glamour et à l'aventure hollywoodienne, Les Aventuriers de l'Arche Perdue est encore à l'heure actuelle un des piliers du scoring hollywoodien qui, à l'époque, rendait déjà hommage aux compositeurs de l'âge d'or de la musique de film. Porté par un souffle épique, le score de Williams va autant voyager dans les cultures que dans les émotions, bénéficiant une fois de plus d'un soin et d'un sens presque surnaturel pour la mélodie qui fait mouche. Indy, premier du nom, se voit tout d'abord cadencé par un thème fougueux, martial, héroïque, chevaleresque, qui symbolisera autant la désinvolture du personnage titre que sa témérité et son côté casse-cou. Une accroche immédiate qui résonnera d'emblée comme pardon, un appel quasi définitif à l'aventure exotique par excellence. Un thème sur lequel Williams se tira d'ailleurs les cheveux, modifiant encore et encore d'accord, deux propositions de thèmes potentiels, les deux devant de cultiver une certaine évidence de lien dans leurs articulations, avant que Spielberg tout simplement ne propose de les accoler, ceci donnant donc les deux leitmotifs du thème principal. Thème qui se verra alors rejoint et attendri par un love theme dans la plus grande tradition hollywoodienne, encore, ardent, mélancolique et mu par une passion embrasant les sens, comme Williams en était fait une spécialité désormais, notamment sur Superman et Star Wars. Ici, ça va être le thème de Marion, aka le love theme, et qui va emporter et exacerber une passion de longue date entre Marion et Indy dans des articulations renvoyant directement aux travaux de Max Steiner, autre grand compositeur de l'âge d'or. Sur ce mood 50s, Williams va un peu plus se déchaîner dans des phases soit gentiment horrifiques, dont les serpents, pourquoi faut-il toujours que ce soit des serpents, invoquant l'aura de Béla Bartok, donc dans des textures atonales particulièrement évocatrices dans l'étrangeté des sentiments qu'elle suscite, avant de se lâcher lors de séquences d'action dantesques type Escape from the Temple, Desert Chase et surtout un basket game endiablé. Pièce d'action maîtresse de la BO, Basket Game se pose comme un bijou de composition que le talent d'horloger de Williams magnifie, multipliant les points de connexion visuels ou émotionnels à l'image. Cette course échevelée pour retrouver Marion galvanise et souffle même de par une mécanique incroyable, sorte de montagne compositionnelle pour un jeu de chat et la souris où se mêlera suspense, humour, percée tonitruante de cuivre, couleur musicale rappelant le lieu de l'action, de par les petits tambourins, et petits pas pizzicato de souris pour finir par une fin déchirante lors de la réutilisation tragique du thème de Marion. Romanesque jusqu'au bout du fouet, la BO a réservé cependant son plat de résistance pour la fin. Le gros morceau de cette BO, dont émane tout le mysticisme du récit, est bien entendu le thème de l'Arche d'Alliance et ses consonances bibliques grandioses que n'aurait pas renié le grand Miklos Rosa. D'une beauté mystique étrange et envoûtante, le thème opérera sur le spectateur un sentiment mêlé d'attraction irrésistible de surnaturel, finissant par se pervertir et suscitant une menace sous-jacente, le grandiose et le divin devenant effroi et horreur sublime. Un procédé qu'il remettra d'ailleurs à profit pour le crâne de cristal du quatrième opus, si vous vous souvenez un petit peu de cette mélodie un petit peu perfide et sournoise que l'on entend dans le film, c'est à peu près la même articulation, en un petit peu moins maîtrisée, enfin pas moins bien maîtrisé, mais bon, ça tient aussi à l'essence même du film. Bref, ici Williams s'amuse, appuyant sur le champignon révérencieux d'un genre musical suranné, déjà à l'époque, le modernisant, frôlant de manière totalement maîtrisée et assumée parfois la caricature, faisant ainsi complètement corps avec une production criant son amour pour le pulp hollywoodien. C'est grandiose, exaltant, ça réveille l'enfant espiègle et aventurier qui est en nous, et bref, ça met un bon coup de fouet, Professeur Jones.
Et oui, exactement.
Magnifique.
Puis effectivement, bien résumé, effectivement, bonne chronique, merci beaucoup Henri. Eh bien mes amis, on arrive à la fin de notre émission, et effectivement, c'était une très très belle émission à faire. On s'est plongé dans l'année 81 pour célébrer la fête de la radio actuellement, hein, on rappelle les 100 ans de la radio française et les 40 ans de la FM et de la radio libre. Et voilà, et en tout cas pour ce Indiana Jones, j'espère qu'on vous a donné envie de revoir le film ou de vous réécouter la musique ou les deux. De toute façon, si vous matez le film, vous n'aurez pas le choix d'écouter la musique en même temps. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, en tout cas pour une nouvelle émission, une nouvelle BO à étudier. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur Miss Cloud, Spotify et iTunes, même si ça se trouve, vous l'écoutez actuellement. Les auditeurs qui restent sur RPL Radio vont bien sûr entendre dans quelques instants la voix de Sébastien Fitaman, qui va vous présenter le Ciné Social Club. Et pour notre mot de la fin à nous, on se sépare avec notre célèbre slogan. Surtout, n'oubliez pas d'écouter
des films. On n'y arrivera jamais.
Mais si. C'est comme le canapé des Simpsons, c'est le running gag, on ne sait jamais comment on va le louper.
C'est ça.
Une bonne journée à tous.
Salut.
Une bonne journée.
Au revoir.